Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus sur France Inter avec Lisa Delmoitié, avec Tanguy Pasturon, Daniel Morin est avec nous, Julien Santini également. Et notre invité aujourd'hui, c'est Marine Delterre.
Merci d'être arrivé à l'heure.
Bonjour Marine. C'est une petite course contre la montre ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous recevons en France la visite d'un président étranger.
Il vient ici.
Il vient te voir pour le blind test.
Je prends même les étrangers.
Il est très bon en blind test. Nagui arrive dans un instant. Aucune inquiétude. Ça bouchonne un peu, on va dire, à Paris, tout simplement.
Ouais, ouais.
Je sais pas. Il est en voiture.
Faut qu'il se mette au Vélib.
Mais on est là, tout va bien. Prudence, Nagui, on t'attend. Prudence. Aucun problème, on va commencer, on va chauffer un peu l'ambiance. Avec ce petit blind test.
Mais du coup, vous le découvrez.
Bien sûr, je le découvre. Et j'explique même que, puisque nous recevons Marine Delterre, mais que nous allons parler ensemble de cette superbe série The Sympathizer, c'est ça, je le prononce
Sympathizer.
Bien Sympathizer, voilà. On sent qu'il y a.
Comme l'apéro appetizer.
Appetizer. Okay. Ah, ça, c'est un bon truc mnémotechnique. Absolument. On va parler de cette série que HBO dévoile.
HBO,
absolument, avec Marine. On va commencer en musique avec ce blind test. Vous êtes prêts, premier titre.
Lisa. Rolling Stones. Rolling Stones.
Absolument. C'est quoi le titre?
Shelter.
Sympathy for the Devil.
Sympathy for the Devil, absolument.
Lisa. Je te le donne.
Beaucoup sur les films de Scorsese.
Un premier point pour Lisa Delmoitié. On poursuit. Deuxième titre.
C'est quoi ça?
La batterie.
Certes.
Bien joué.
Daniel, une réponse?
Je vous donne le titre. Oui. Sympathy for the Devil.
Lisa. Rolling Stone, mais non, c'est pas Rolling Stone.
Springsteen.
Non, c'est pas Springsteen.
Non.
Clapton? Non.
Oh, waouh!
Si! Streamer, celui-là.
Si, bah si, on va commencer. Il est 11h07, je t'ai obligé de commencer. Est-ce que tu peux trouver?
J'entends pas.
Il entend rien. Ça fait longtemps qu'il entend rien.
Nagui arrive. Attends, c'est la première fois que tu vas jouer en plus.
Il est bon.
Après, c'est.
Demi, Motorhead.
Ah, bravo!
Il a préparé le blind test.
Ouais, mais c'est un point quand même pour Nagui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Attends.
Et donc, tu as des réponses.
Et t'avais qu'à le faire.
Ouais, bah alors.
Nagui, c'est déjà bien qu'il se gagne.
Tu peux continuer. Mais attendez, là, il y a un vrai match. C'est la première fois qu'il joue avec nous.
Tu rigoles.
Bonjour Nagui, soyez le bienvenu dans cette émission.
Enfoiré de président chinois. Allons-y.
Non, un peu de référence.
Diplomatiquement, ça va être compliqué ce qu'on raconte là.
Troisième titre.
Tanguy.
Oui.
Je ne veux pas travailler. Pink Martini, Martini, Pink Alibi.
C'est ça,
Pink Martini.
Sympathique. Ah bon, le titre, c'est sympathique.
Ah, sympathique.
Oui, on cherche interprète, je te rappelle.
Et le premier point,
je l'avais.
Ah oui.
Ça va.
Je veux seulement l'oublier.
Tu mets Anne Hidalgo et Xi Jinping dans la même ville.
Coupez-lui son micro.
Ça faisait longtemps.
On est dans un moment musical.
Oui, c'est vrai.
Ça va pas te permettre de redescendre comme ça, de respirer.
C'est pas grave de rater une émission en fait. Ne s'écroule pas.
Pas la tienne.
Quatrième titre, êtes-vous prêts? C'est parti. Pendant qu'ils sont des câlins.
Ouais. Ah bah ça c'est Massive Attack.
Bravo. Attends là-dessus.
Ouais.
Un très beau point de Marine Delterme là.
Un très beau point. C'est vrai qu'il y a des points plus ou moins importants.
Non mais c'est un des mensonges préférés.
T'es absent 3 minutes et le règlement change.
Il est pas content d'être arrivé à la bourre.
Hein.
C'est l'histoire de la vie ça.
Encore une chanson des Disney, ouais. Un point pour Nagui. C'est hyper.
Non,
il y a un point pour toi. Pardon, c'est moi qui parle. Il y a un point pour Lisa. Il y a un point pour Tanguy.
Je suis ravi d'être invité dans cette émission.
Allez, on est parti. Cinquième titre.
Ah, ça.
Bon, il l'a, mais il dit pas.
Non, j'ai pas.
Mais c'est toi qui l'as fait le blind test.
C'est vrai?
J'essaye de lire à l'envers sur la feuille, mais je vois.
Ça, c'est trop hard rock pour moi.
C'est que de l'instru.
C'est que de l'instru.
Il y a un nom de couleur dans le titre.
Les Yellows.
Non. Les Red Hot Chili Peppers.
Non.
Ça pourrait, ouais.
Les Black Sabbath.
Non. Les Black Keys.
Non, c'est pas Black.
Les White Stripes. Les Brown. Les Blue.
Je vais pas vous dire la couleur, sinon ça sort pas.
Les Orange.
C'est ton t-shirt.
Les Violets.
Green Day.
Green Day. C'est un instrumental que t'as choisi.
Green Day.
Ouais, c'est dur.
Et ça s'appelle Espionnage. Pour faire écho là aussi.
C'est quel rapport avec la série?
C'est malin de l'accorder là.
Ah oui, j'ai bien trouvé. C'est à toi, Lisa, que j'ai donné le point.
Non, c'est à moi.
Oui.
Non, j'ai pas.
C'est moi qui dis Green Day.
C'est toi. Deux points, pardon.
J'ai dit vert. Regarde mon t-shirt, je suis pas sûr que ça compte.
C'est pas faux. Deux titres, il reste l'avant-dernier.
Obao.
Groupe très connu.
Une blague pour les vieux quand même.
Il y a 22 secondes d'intro. Vous avez le temps de vous décider.
On fait des intros en fait.
Je vais prendre une douche, je reviens.
22 secondes. Je prends le temps.
Mets ton peignoir.
C'est sympa.
C'est très inattendu. C'est un groupe que vous connaissez très très bien.
News.
Écoutez bien là.
Oh, c'est les Doors.
Oui, Marine. Bravo, Marine. The Spy.
Victoire de Marine.
Ah, The Spy. C'est un rapport avec la série?
Bah oui, parce que oui, je sais pas si t'as vu, mais il y a un spy quand même dedans. J'ai tellement bon espion qu'il l'a pas remarqué.
Ouais. Et maintenant, c'est le Super Banco, vous êtes prêts?
Allez.
C'est maintenant que tout se joue, donc Marine, si vous remportez ce point. Pour l'instant, vous êtes en tête à égalité avec Nagui, donc ça se joue entre vous. Sauf s'il y a un hold-up de Julien. Holo, Julien.
Oui, pardon,
c'est
bonjour.
Parti. Yolo.
Ah, c'est vous, Julien Santini.
J'ai honte.
Lisa, Michael Jackson.
Non.
C'est bien ça.
C'est bien en tout cas.
Ah ouais, c'est bien.
Oh,
c'est beau.
Ah, dommage, hein. C'est super.
Wyclef Jean. Wyclef Jean, les Fugees. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a Wyclef Jean. Et avec qui?
Shakira.
Absolument.
C'est quoi?
Je vais le donner à Tanguy quand même, parce que c'est lui qui dit Wyclef Jean pour commencer.
Donne-lui, il gagne jamais le pauvre.
C'est une victoire de Tanguy Pasturo.
Et c'est bravo. Et c'était que plaisir.
Avec Nagui et Leïla Kadour.
Comment ça va, Marie Nater?
Ça va très très bien. Je suis toujours de bonne humeur quand je viens chez vous.
Le culot du gars, c'est comme s'il n'était pas arrivé en retard.
Bravo, Leïla.
Non, mais c'est inédit, mais il n'y a pas Nagui. Je dis, écoutez, c'est très bien.
Non, c'est pas inédit, mais
ça arrive. Ça arrive.
Il est en vacances.
Je ne dirais pas d'où vient ma haine.
Oh, on l'a pas compris, on l'a compris à demi-mot.
Mais comment vous avez fait? Vous étiez là à l'aube? Ah oui, toi t'es là à 6h du matin.
Ouais. Moi je suis arrivé en courant.
Je suis assis à cette fois.
Il faut préciser très rapidement que tout Paris
est bloqué.
Est bloqué. Voilà, tout Paris.
C'est-à-dire c'est,
est
c'est Paris quoi.
Pour la visite, pardon. Ouais.
Pas en vélo.
Non, mais à métro, par exemple.
Déjà, on dit à vélo et...
Oh là là, l'émission va être tendue.
Ah, ouais, je suis très énervé.
Je crois que ça va être la deuxième émission de l'antenne à imploser.
Attendez, je cherche ma répartie, j'arrive.
Parlons. À vélo,
tu vas laisser sur ta selle.
Vu comme ça roule, t'as le temps d'arriver. The Sympathizer, l'histoire donc de cet espion double espion, triple espion. Ouais, c'est absolument totalement fou. C'est une mini-série dans laquelle vous jouez Marine Deter, mais surtout... C'est carrément du cinéma tellement c'est produit, tellement c'est extrêmement bien réalisé.
Racontez-nous. Pas n'importe qui en plus.
Racontez-nous. Alors justement, je te laisse le dire parce que moi je suis en coréen, je suis pas très bon.
Bah non, mais Park Chan-wook, je pense que c'est bien.
Ah, voilà. Oui.
On va quand même être la sortie comme ça ici.
Est-ce que c'est vrai que c'est la première fois de votre vie que vous avez, ou en tout cas depuis pas mal d'années.
Vous rencontrez Park Chan-wook ?
Non, vous avez passé un casting, des essais ?
Ah oui, non, quand je débutais, j'entends. Mais là, des tapes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de la Covid, on se filme dans sa salle de bain et on fait des petites scènes. Oui, c'était la première fois. Voilà.
Ça faisait longtemps?
Jamais.
Et que vous aviez le track, comment ça se passe?
Non, bah, je me suis dit, tant qu'à faire une tape que j'ai jamais vraiment faite, je vais m'amuser. Donc, j'ai pris un copain à moi, acteur anglais très bon. Et on m'a dit, allez, on se lâche, on s'amuse. Donc, j'ai improvisé, j'ai inventé, j'ai changé le texte. J'ai fait une vraie proposition, en fait.
D'autant que le personnage était italien au début.
Exactement.
Et que vous êtes arrivé avec Monique.
Voilà. Du coup, Monica a dit Monique quand ils m'ont pris.
Très choix. Voilà. Ouais, c'est joli.
Donc, ça, c'était bien.
Et avec une scène intime avec Robert Downey Jr. qui joue. Alors, sur les papiers et tout, dans la presse, j'ai vu 4 rôles, moi j'en ai vu 5.
Oui, il y en a 5.
On est d'accord.
Ouais.
Il y a le curé. On dit pas tout. Donc il y a des rebondissements, il y a 7 épisodes, ça se binge, mais alors à une d'une force incroyable, parce qu'il est impossible qu'à la fin d'un épisode vous disiez bon allez, je laisse tomber, je passe à autre chose.
Surtout qu'il y a un savant jeu de retour d'aller et venu qui font qu'on explicite des choses qu'on n'avait pas forcément compris avec l'histoire du personnage, donc on est tenu en fait.
Oui, oui, ça c'est
très bien réalisé.
C'est du cinéma en fait.
Totalement. Il y a une bande son de dingue. Je crois que c'est l'un des premiers morceaux que l'on entend dans la série. Avec ce jeune qui est métis, mi-français, mi-vietnamien. Et d'ailleurs, tout le monde le harcèle à l'école en le traitant de moitié. Et sa maman a une formule formidable en disant non, t'es pas la moitié, t'es le double, au contraire. T'es deux fois plus fort.
C'est une jolie formule. Hein,
et c'est là où il devient agent double. Jouer avec des acteurs que l'on admire, ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Mais quand c'est Robert Downey Jr., c'est-à-dire qu'on arrive à la légende, est-ce que c'est vraiment impressionnant? Ou finalement, c'est un métier comme un autre et vous êtes tous des actrices et des acteurs.
Non, c'est impressionnant, mais en fait, lui, il est tellement extraordinaire, déjà dans son parcours, dans ce qu'il est, et dans sa générosité, comme tous les grands acteurs, il donne beaucoup, il écoute beaucoup. En tout cas, nous, on a tout de suite connecté. Et je le regardais, enfin, c'est un animal, quoi. C'est une sorte de c'est un danseur, il est tout le temps en mouvement, il est carré.
Et c'est un transformiste. Il a 4 rôles, 4 personnages, avec une scène incroyable dans un restaurant où les 4 jouent.
Ils sont là ensemble.
Ça, c'est d'une dinguerie de réalisation. Je faisais pause, je voulais voir comment ça fonctionne. Mais non, évidemment, on n'y arrive pas. C'est comme un tour de magie, il faut rester enfant et se dire bon c'est comme ça et tant mieux, on se fait embarquer.
Non mais moi je le voyais le matin au maquillage, donc en fait il était à côté de moi et je le voyais se transformer parce qu'on mettait des prothèses, on changeait. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'était pas vraiment Robert, c'est pas Robert, mais c'était drôle. Non, on s'est entendu.
Vous êtes dans la série décoratrice, productrice du décor, en tout cas. C'est vous qui a installé un décor, qui reconstitue un décor,
le Vietnam à Los Angeles,
qui va chambouler le héros, parce que c'est un espion, on est dans la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam est à la fois une catastrophe, évidemment, côté américain, et on l'a toujours vu au cinéma, du côté américain, on l'a rarement vu du côté vietnamien, c'est ce que le film porte, justement. Et en disant, il y a deux guerres quand il y a une guerre, il y a celle que l'on a vécue, et celle que l'on raconte après.
Mais la guerre de la mémoire, oui.
Qui a totalement la guerre de la mémoire, c'est ça, qui a totalement marqué et imprégné cet espion qui se retrouve envoyé par le camp communiste, par Vietnam du Nord, aux États-Unis, en disant qu'en tard, tu nous seras beaucoup plus utile aux États-Unis que si tu restes au Vietnam après la victoire du Nord. Et là, il va être totalement perturbé, chamboulé, il va vivre plusieurs vies lui aussi sans changer de visage, mais il ne saura pas finalement dans quel camp être.
Mais dans mon épisode, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que, justement, un grand metteur en scène américain, qui est joué par Robert Downey Jr., qui a des Oscars, enfin, complètement fou, va faire un film sur la guerre du Vietnam.
Hamlet.
Donc, notre pauvre espion essaye de engager comme référent
de ce qui est vietnamien, de la langue.
Oui, de la langue.
Il va écrire des dialogues.
Et des scènes à pleurer de rire.
C'est une satire. C'est extraordinaire.
C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il va écrire des scènes en vietnamien qu'aucun Américain ne comprend
pas,
mais en leur faisant dire la propagande communiste.
Voilà. Le metteur en scène trouve ça génial, il comprend rien.
C'est à la fois un film historique, c'est à la fois un film sur l'intégration, sur le racisme, l'exclusion aussi, le rejet. Parce que au casting, on emploie des Chinois pour jouer des Vietnamiens en disant bon, c'est des jaunes, on s'en fout, ça fera très bien le rôle. C'est vraiment comme ça que c'est vécu.
Ouais. C'est exactement.
Une violence inouïe.
C'est très violent. Et moi, j'ai eu la chance de faire cet épisode-là où il y a David Duchovny aussi, qui est un acteur complètement
parfait,
fou, qui se prend pour.
Toujours bourré d'ailleurs, lui, depuis Californication, il n'a pas dessoulé. Hein.
Très violent,
mais rien d'ailleurs. Il fait ça très très bien.
Mais il est sous.
Non, il le fait bien.
Mais il est culte en tout cas.
Mais il est culte, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, c'était très sympathique d'être avec tous ces acteurs. Il y a un face-à-face des deux d'ailleurs qui est vachement bien dans l'épisode Duchovny, et qui se connaissent bien. D'ailleurs, puisque Duchovny disait à Robert Downey Jr. « Tu m'as prise sur Chaplin, je débutais, je vous ai vu travailler, j'étais fascinée, ça m'a donné envie. » Donc c'était joli, parce qu'ils se suivent depuis des années quand même.
On va continuer à parler de cette série jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Alors vous, vous n'auriez pas fait un film sur la guerre du Vietnam comme ça, Lisa?
Non, j'aurais pas fait ça, moi. Non, la série parle de guerre du Vietnam, du vécu des Vietnamiens, de l'impérialisme américain. Et moi, chaque fois que je me prépare à critiquer les États-Unis, je me chauffe. Puis je me rappelle que ma passion, c'est le stand-up. Ma mafia préférée, les Kardashians, et mon fléau favori, l'obésité. Moi, tu m'enlèves les Américains, mon monde s'écroule. Ouais, moi, mon fléau préféré, c'est l'obésité. En même temps, les autres fléaux, c'est la peste et une pluie de sauterelles. Donc vous comprendrez, si le jour de l'apocalypse, je préfère crever du fléau où on mange trop de donuts. C'est comme ça que je veux partir, moi. C'est incroyable, le donuts. Moi, j'adore ça. C'est tellement léger, t'as l'impression de mordre dans un nuage ou le cul d'un mannequin. Et tout ça, j'ai jamais testé. Oui, c'est DiCaprio qui m'a expliqué. Lui, mord dans le cul d'un mannequin différent chaque année. C'est incroyable. Mais le donut, c'est incroyable, le donut. C'est plus léger qu'un pet, mais c'est aussi le seul dessert qui a la forme de la bouée qu'il est en train de te former au sol des terrains. C'est incroyable. 1000 calories en à peine deux bouchées. Franchement, un plaisir si court pour tant de conséquences. Manger un donut, c'est comme tomber enceinte d'un éjaculateur précoce. C'est quand même c'est cher payé, quoi, ouais, pour si peu de plaisir. Mais donc, comment critiquer les États-Unis avec avoir un regard sur leur implication au Vietnam quand tu dépends d'eux comme moi? C'est comme quand je passe mon date à expliquer aux gars, je te préviens, je suis féministe. Hein. À balle, patriarcat, je suis pour l'égalité, moi. Et au moment de l'addition, je fais semblant de chercher mon portefeuille. Non, c'est pas vrai, il est où? Putain, je crois que je l'ai oublié à l'époque où les femmes n'avaient pas de compte en banque. C'est pas parce que je profite des restes du patriarcat que je peux pas le critiquer. Et j'ai beau aimer l'humour et la junk food made in US, je me rends compte des dégâts de l'impérialisme américain. Ils répandent leurs idées partout, les Américains. Bon, depuis Trump et Biden, déjà, tous les retraités de mon quartier se sont réveillés. Ils veulent tous finir leur vie à Washington. En même temps, je comprends. 3 ascenseurs, 25 personnes en cuisine, la Maison Blanche, c'est juste un EHPAD où tu fais des discours. Hein. Et un autre indice de l'hégémonie culturelle américaine, c'est que tout ce que je connais de la guerre du Vietnam, je l'ai appris via leur cinéma. Oui. Tout ce que je connais de la vie, d'ailleurs. Mmh. Hein. Ouais. Moi, j'ai appris la géopolitique grâce à Apocalypse Now, la justice avec le merveilleux 12 hommes en colère, et la sexualité avec le classique une fille qu'un joueur de rugby.
C'est
ça laisse des traces. Hein. Oh, je vous le conseille, ouais, vraiment. Donc c'est ça la force de la série de Sympathizer. On a enfin le point de vue d'un Vietnamien, hein, pas que les Américains. Ça change d'Apocalypse Now. D'ailleurs, dans la série, Marine Deltain, vous jouez la femme d'un réalisateur qui rappelle un peu Coppola, hein, sur le tournage d'Apocalypse Now. Le mec est survolté, mais vous n'êtes pas impressionné, hein.
Vraiment, je suis la seule un peu normale.
Ouais, vraiment, vous avez un peu ce que les Américains appellent la nonchalance à la française, autrement connue sous le terme de mépris. Hein, faut se dire. Faut le garder ça comme ça. Française, c'est parce qu'ils sont pas impressionnés. Hein, les gars, ouais. Vous vous retrouvez donc à demander si le tournage est assez crédible à cet espion vietnamien. Quel métier, quand même, l'espionnage, hein. Un espion, c'est quelqu'un qui ne peut jamais rien révéler de personnel sur lui. C'est littéralement l'inverse de moi. Je ne pourrais jamais être espion, je suis incapable de pas trop en dire sur moi. Je vous jure, c'est un enfer au quotidien. Mais vraiment, moi, je ne sais pas faire de small talk. À résultat, 2 secondes après avoir rencontré quelqu'un dans le bus, je suis là... Ma plus grande peur dans la vie, c'est l'humiliation, mais paradoxalement, c'est ce qui m'excite le plus au lit. Ah, mais voilà, déjà mon arrêt. Dis donc, ça passe vite quand on met tout le monde mal à l'aise. D'ailleurs, voilà déjà la fin de la chronique. Je vous laisse, hein, vu l'actualité, il semblerait que l'apocalypse soit proche, donc bon, oui, j'ai une boîte de donuts à dépenser.
Merci. Lisa Del Moitié.
Et sa boîte de donuts, c'est la nouvelle scène. Tous les jeudis soirs.
Pour en revenir donc Marine Deltain à cette série, c'est vrai que ça peut être vu comme une série d'espionnage historique. C'est vrai que l'histoire appartient à ceux qui la racontent. Ça a été le cas des Américains longtemps. Là,
c'est le cas de la France aussi. Hein.
C'est récupéré. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, t'as raison.
Bah oui, le roman national.
Absolument. Ouais,
c'est celui qui l'écrit qui a raison. Hein.
Et là, ce sont les Asiatiques parce que il est coréen, le réalisateur, et donc se retrouver avec ce regard-là sur le Vietnam, le vécu et surtout la volonté finalement de retrouver ses racines après avoir été des réfugiés politiques ou des victimes, en tout cas qui se retrouvent aux États-Unis avec la culture américaine. Et ils seront toujours marqués par leur culture, évidemment, par le regard des Américains sur eux, le racisme. La guerre va continuer, elle est plus psychologique.
Oui.
C'est ce que
raconte cette série, ouais, tout à fait.
Et puis il y a aussi un petit côté comédie romantique. Comédie, peut-être le mot est un peu fort, mais enfin, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de rencontres, il y a des histoires de trahison aussi. Et puis un double espion, comment fait-il pour convaincre un camp qu'il est vraiment avec eux et pas avec les autres? Il doit aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait prévu d'aller. Et ça va l'hanter parce que les fantômes aussi sont très présents.
C'est vrai.
Il y a un côté un peu fantastique aussi.
Il y a un côté, ouais, fantastique. Mais il y a trois metteurs en scène sur cette série, donc c'est vrai qu'il y a trois un peu périodes dans le film. Hein. Il y a Park Chan-wook qui a une mise en scène extrêmement léchée, très très cinéma, et je crois qu'il faisait à peu près 40 prises par plan.
Waouh.
Et donc nous, on
mais
est arrivé...
Mais qui est la référence pour les autres réalisateurs, si
bah, évidemment, parce que c'est un grand metteur en scène, il a son style, et voilà, et c'est très particulier. Et puis après, nous, on a eu Fernando Mireles, qui est aussi un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui a fait La Cité de Dieu, qui est un de mes films préférés, qui est donc brésilien, donc complètement à l'opposé, donc on était que dans l'improvisation. Donc ça, Robert Downey Jr., c'est la joie. Donc voilà, après, Mark Mandan, enfin voilà, il y a quand même aussi... D'accord. Après, il y a Park Chan-wook qui est showrunner, donc il tient un peu toute la...
C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même une unité dans la série, dans la réalisation, dans la lumière, dans les allers-retours, parce que ça fonctionne beaucoup avec des flashbacks.
Ouais.
Alors le point de départ, il est en prison, quand même, l'acteur c'est Hwa Xuande. Il se retrouve en prison et on lui demande de raconter son histoire et de faire donc des confessions. Et là, il se met à écrire ce qui pourrait être finalement le scénario de la série, de cet épisode.
C'est le récit dans le récit, quoi.
Ouais, c'est ça.
En permanence.
Ouais. Mais nous aussi, c'était bizarre de jouer un film dans le film, en fait. Il y a un jour, je suis arrivée sur une scène... je dévoile pas du Coveney, on filme du Coveney, hein, et après je comprenais pas, parce que j'ai dit, Robert, mais il y a une caméra là, non mais ça c'est la fausse. Ouais, il y avait des caméras partout, je savais plus qui tournait quoi, enfin c'était assez surréaliste quoi. C'est très
la manière de travailler des Américains, on peut en parler quelques secondes, vous avez l'expérience des tournages en France, que ce soit de séries ou de films, est-ce que vraiment la légende qui dit les Américains c'est pas pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas pareil parce qu'ils prennent plus de temps, est-ce que c'est pas pareil parce que il y a plus de distance entre les acteurs et le réalisateur, il faut passer par trois personnes pour avoir une indication. Comment ça se passe réellement?
Ouais, c'est vrai, j'avais fait Vatel aussi, j'avais fait Coco Chanel, j'ai fait plusieurs films. Mais c'est vrai que sur les gros films comme ça, comme Vatel ou là, Sympathizer, c'est vrai que les Américains, ce qu'ils aiment, c'est qu'on arrive, l'acteur arrive prêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de...
À l'heure, déjà.
Déjà, à l'heure.
À l'heure, mais nous aussi, c'est en France. Hein. Alors, ça.
C'est pour ça qu'on ne sera pas acteur.
Il faut qu'on soit à l'heure. Ça s'appelle le respect, c'est tout.
Non, mais sur ces gros films, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup le temps de discuter, de chercher, etc. Les acteurs sont prêts. D'ailleurs, souvent, il y a des coachs aussi qui peuvent préparer en amont. Donc, il n'y a pas le temps sur le plateau de beaucoup...
Bah alors donc tout à l'heure vous disiez il y a un peu d'improvisation.
Non là
alors...
sur Fernando ça c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'improvisation, mais enfin moi j'ai pas eu par exemple sur le tournage, je n'ai jamais parlé à Fernando Mireles avant, à peine le jour J, c'est-à-dire qu'après moteur action on ne pas c'est improvisé, mais on n'a pas parlé du rôle, on n'a pas défini, c'est
d'accord
vraiment...
ah oui.
Avant donc, vous l'avez fait avec lui ou pas du tout?
Pas du tout.
Ah,
donc, la seule personne qui m'a appelé
avant
de...
c'est la coordinatrice d'intimité qui elle était très impliquée dans
pour
ce
la scène,
de scène
intime avec Robert Downey
Jr.
Mais comment savoir si vous travaillez dans la bonne direction, si vous arrivez le jour J sur le plateau avec ce réalisateur-là, de cette partie-là
avec
de la série,
bonne intention,
parce que vous avez travaillé et qu'en fait ça lui va pas du tout?
Non, mais parce que là du coup les essais que j'avais fait, qui étaient quand même beaucoup de scènes en essai, c'est ce que j'avais proposé qui leur allait, donc c'est aussi pour ça que
Donc,
je ne prends pas quelqu'un pour
le faire travailler sur quelque chose,
en tout cas de mon expérience. Après il y a un truc très agréable chez les Américains, c'est qu'ils sont très axés sur la santé mentale, ils sont très respectueux de la santé mentale, vraiment, ils sont plus en avant que nous, donc sur un tournage, il n'y a pas le début de harcèlement, alors physique plus du tout, hein. En plus depuis MeToo c'est très évacué, mais aussi moral, c'est-à-dire que personne ne parle mal à personne, c'est impossible quoi, c'est tout de suite très cadré, voilà. Et les Américains sont forts sur l'oralité, donc il y a un début de conflit, quelque chose, c'est tout de suite exprimé, on en parle,
on analyse,
ça reste
beaucoup.
Pas comme d'accord. Ça des semaines, et ça, c'est très respectueux,
donc
c'est assez agréable.
Cette coordonnatrice, justement, elle vous appelle en vous disant il y a une scène intime avec Robert Downey Jr. Elle vous pose carrément la question de qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas,
jusqu'où
faut-il aller
Non, elle me dit est-ce que ça vous pose problème, est-ce qu'il y a des endroits, parce qu'il y a aussi des danses, des choses qu'on faisait, tout ça, est-ce que ça vous pose problème? Non. Et après, le jour
donc
du
c'est
du
Robert
tournage,
Downey Jr., enfin, c'est ça.
Oui, c'est Robert Downey Jr., tout va bien. Et puis le jour du tournage, elle est venue, encore on attendait, on était un peu dans le froid tous les deux, elle dit alors est-ce que tout va bien? Et donc là, Robert, très drôle, a dit écoutez, madame, je crois que Marine est très heureuse dans son mariage. Moi aussi, on a à peu près tous les deux 50 ans.
Oh,
on va y arriver. Et elle a fait. D'accord.
Est-ce que c'est vrai que vous avez fait la vanne en disant à la coordinatrice est-ce que j'ai. Est-ce,
ah
que
oui,
avez, est-ce que vous avez besoin d'être rassurée?
C'est plutôt mon mari qu'il faut rassurer.
Voilà. J'adore cette vanne.
C'est génial.
Elle n'a pas compris.
Et Florian va bien?
Oui, il va bien. Il a
bien vécu. Ok, c'est essentiel. Cette série est totalement dingue. Alors, c'est distillé. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode. C'est ça le vôtre est arrivé ce dimanche. Sur HBO
et ce soir France, il passe ce soir. On a un jour d'écart.
Oui, il y a un jour d'écart.
Un jour d'écart. Donc, c'est toujours ça.
Pas soir nerf, ce soir.
Ouais. Ok, super. En tout cas, on a eu la chance, et merci de nous avoir permis de voir les sept épisodes à la suite les uns des autres, parce que c'est vraiment impressionnant la manière dont ça joue. Il y a la traîtrise, il y a évidemment l'intégration, tous ces réfugiés qui ont fui la guerre du Vietnam et qui se retrouvent aux États-Unis propulsés dans une société qui ne veut vraiment pas d'eux, qui leur envoie d'ailleurs l'image plutôt d'une défaite qu'autre chose, et eux-mêmes comprennent assez rapidement les rouages de la société. Ont-ils ou pas envie de retrouver leurs racines? Toutes ces questions se posent et se posent à tous les réfugiés finalement du monde et à tous les immigrés du monde, à savoir, est-ce que l'on est forcément heureux vers la terre promise, ou est-ce que d'instinct il y a toujours l'appel de la terre natale? Peut-être ce genre d'appel que vous êtes en train de vivre, vous, avec la France. Ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis maintenant?
Ça fait un an et demi. On va rentrer là, mais ça fera 2 ans.
Et la France vous manque ou pas?
Énormément. Je ne m'y attendais pas à ce point-là. Je suis parisienne, je suis née là, donc je suis peut-être un peu pas blasée, mais je veux dire, le fait d'être loin, cette ville m'a manqué tellement. Et la France, ouais. Et surtout, on se rend compte en vivant ailleurs à quel point c'est l'Eldorado, quoi, franchement. Mais ça, il faut aller loin pour se rendre compte. C'est au niveau de la santé, où là-bas, les gens se ruinent pour se soigner. Les soins ne sont pas gratuits, coûtent très, très cher. Mais vraiment, on l'éprouve tous les jours. Les écoles aussi sont très chères. Et puis aussi, le cinéma est en train de mourir aux États-Unis. C'est les plateformes qui ont tout pris. En Angleterre aussi. Donc nous, on a un Eldorado artistique. Enfin, je veux dire, entre la production de cinéma...
L'exception culturelle française.
L'exception culturelle extraordinaire. Quand je suis à Los Angeles, il n'y a pas de théâtre. Donc là, l'autre soir, je vais au théâtre, il y avait 200 spectacles à voir ce soir, là, dans Paris. C'est juste... Ouais. On est le seul pays au monde, plus que même Londres, à voir ça. Donc, que ça soit la télé, qui est d'un grand niveau cinéma-théâtre, c'est la danse, les musées, enfin, c'est extraordinaire. L'art de vivre, évidemment, mais ça, on le sait. Mais voilà, et donc ça... Et les gens, parce que Los Angeles, c'est une ville fantôme. C'est une ville de la nature, donc la nature est sublime.
C'est une ville d'autoroute. Enfin, moi, j'ai jamais foutu les pieds, mais il paraît qu'il n'y a que des grandes routes.
C'est une ville très étendue, donc il n'y a pas de gens dans les
rues. Une voiture.
C'est une ville très cinématographique, assez fantomatique et belle. Hein. Quand on aime le cinéma, c'est plein de références. Mais moi, j'ai besoin de voir des gens.
Les Parisiens vous ont manqué, c'est ce que vous
beaucoup.
Êtes en train de
dire. Beaucoup. Je les trouve même très sympathiques, moi.
Vous êtes partie dans le temps.
C'est ça ce qui nous manque.
Et même l'état politique.
Il faut aller ailleurs.
Et même l'état politique du pays, les tensions de plus en plus forte entre les communautés, parce que c'est aussi ça, j'imagine, de revenir et c'est de se rendre compte aussi, même si vous ne l'avez pas perdu de vue, j'imagine, à distance, mais quand même.
Oui, mais
en 2 ans, en peu de temps, ça.
Oui, ça s'est dégradé, mais c'est mondial. Et puis, alors, aux États-Unis, il y a un autre truc très bizarre, par contre, ça, c'est très angoissant, c'est que, par exemple, la Californie, c'est le pays, c'est, crois-je, le plus cool, l'état le plus cool des États-Unis, donc tout le monde est très yogi, etc. Et puis, tout d'un coup, on ouvre les infos, il y a un mec qui s'est fait tuer sur le parking où on était 2 heures avant. Ce problème des armes à feu et ces tueries constantes dans la vie, sont assez violents.
Article 2 de leur amendement, c'est-à-dire, ou amendement numéro 2, je ne sais pas comment on dit.
Enfin, on n'a pas besoin d'être aux États-Unis.
L'article 2 de la Constitution.
Aux États-Unis,
c'est de se défendre.
C'est ça. Je ne l'ai pas dit, pardon, mais c'est adapté d'un roman éponyme, The Sympathizer, signé par Viet Thanh Nguyen, qui a reçu le prix Pulitzer, thriller d'espionnage, avec une satire quand même sur le choc culturel entre les Vietnamiens d'un côté et les Américains de l'autre, et cet espion mi-français, mi-vietnamien, mi-encore enfant, mi-adulte.
Oui, c'est vrai qu'il a ça. Ouais. Il a un physique d'enfant, une voix très grave. Il avait une scène émouvante avec moi, je raconte pas tout, mais c'est vrai qu'il, dans le film, il me donne à un moment quelque chose, une information qui est la seule fois où je parle vraiment.
Qui est la clé, on peut le dire, autour de sa maman,
de sa mère. Voilà.
Mais déjà, vous lui renvoyez l'image du village dans lequel il a grandi, puisque vous êtes la chef décoratrice qui a reconstitué ce village et qui demande sa caution, finalement, de dire est-ce que j'ai bien fait mon boulot. Et là, il est totalement bouleversé jusqu'au cimetière qui a été également reconstitué et qui sera une autre scène que d'ailleurs dans la série.
Il y a une petite référence au parrain aussi.
Marine Delterme, notre invitée jusqu'à midi et demi avec The Sympathizer, qui est sur HBO, la série de Park Chan-wook. Mais d'abord, voici Julien Santini.
Merci beaucoup.
Ah, Julien Santini.
Super, c'est la cinquième. J'arrête de le dire. Je suis chez moi.
J'ai cru que tu reviendrais pas.
C'est très gentil. Bon, mais bonjour.
On m'avait juré qu'il reviendrait pas.
C'est quoi, j'ai tout fait pour.
Vu que c'est la cinquième, maintenant respectez-moi. Alors, bienvenue dans la chronique de Julien Santini. La chronique de Julien Santini. Ravi de tous vous revoir, Nagui. Et vous, Leïla, encore plus. Vous, Leïla, parce que je sais que la semaine dernière, vous deviez être là et vous avez eu un tout petit souci de santé au dernier moment. Donc, voilà. Est-ce que ça va mieux?
Ça va très bien.
Bon, bah, super. Je suis content de vous revoir. Et moi, c'est que j'ai un petit peu mal à l'intestin. On sait tous très bien qu'il n'y avait pas grand chose. Pardon. Dérapage. Leïla, c'est un dérapage. Et le pire, c'est le seul moment de ce texte qui n'était pas écrit.
Ben
donc,
voilà.
Je reviens dans ce qui est écrit. Ravi également de retrouver mes partenaires d'un matin. J'avais marqué en plus Lisa et Tanguy. Mais Tanguy fait un peu trop ce qu'il veut. Il sera sanctionné à la prochaine. C'est vrai. Alors, je vais dire Tanguy, Daniel à la place de Tanguy. Lisa et Daniel, ce ne sont pas les rires les plus sonores du paysage radiophonique. On ne peut pas dire que la manifestation d'enthousiasme soit ostentatoire. Si la brigade du kiff nous interpelle, il n'y aura pas grand monde en garde à vue. La garde à vue, la transition me semble parfaite.
Ouais.
Je vous explique. La semaine dernière, tenez-vous bien, je tourne une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, avec deux potes, on joue des braqueurs rentrant dans un théâtre. Je ne peux pas dire lequel car ce n'est pas officiel. Nous voilà au théâtre des Mathurins, sur le perron, portant des cagoules.
Ah ouais.
Soit dit en passant, est-ce qu'elle allait mieux à certains que d'autres? La réponse est oui. Pour des raisons évidentes de sécurité, je n'en dirai pas plus, on s'est compris. Pourquoi je trouve que je la porte mieux que les autres? L'expérience, sans doute. Je n'ai jamais fait de braquage, mais j'ai grandi en Corse. Est-ce que mon père a été de près ou de loin impliqué dans l'attentat des impôts vers la préfecture en 1989? Le principal intéressé dit que non. Le juge, lui, dit que dans le procès verbal, il aurait été vu en repérage la veille et que son téléphone avait borné dans les 2 km. Mais c'était en 1989. Revenons donc à la semaine dernière. C'est faux. Me voilà avec deux potes sur le perron du théâtre, dans la rue, avec une cagoule chacun. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup préparé le tournage, donc j'ai peut-être omis qu'il y avait une banque à côté. Et en rigolant d'ailleurs à mes copains, je leur disais, vous imaginez, s'il y a quelqu'un qui marche dans la rue et nous voit à ce moment-là, personne pourrait penser que c'est un vrai braquage. Sauf que c'est arrivé. Une personne est rentrée dans le théâtre et a dit, pour information, je viens d'appeler la police. Donc la morale de cette histoire, c'est que quand on n'a pas les moyens de faire une vidéo, eh bien on fait des facecam et on ne tente pas de faire une reproduction low cost de hit. Le braquage, la police, Alice Nevers. La transition est parfaite.
Non, déplaise aux
gens, aux médisants qui crachent leur venin à coups de « Oui, mais Santini, c'est quand même faiblard en transition. Et Santini, c'est peut-être une frappe physiquement, mais enfin, sur les transitions, c'est pas une frappe. » Alors là, bon, pour le coup, le texte était écrit. Marine Delterme, je suis content de vous voir en vrai. Moi qui, à chaque fois, vous regardais derrière.
Écran de télévision.
Je vous ai toujours trouvé une classe folle.
Je suis désolé.
Je m'excuse parce que vraiment, je l'assume totalement. Je pensais à force de vous connaître. Cependant, il y a plein de choses que j'ai apprises de vous récemment. Ce mariage avec Florian Zeller. Alors, je n'ai rien contre cette union, mais je vous dis honnêtement, quand j'en ai parlé récemment à mon meilleur ami, il m'a répondu. Vous savez, Monsieur Santini, le déni ne sert à rien. Sortez-en, faites-vous confiance. J'ai absolument rien compris à ce qu'il m'a dit. Également cet article sur lequel je tombe et me suis fait mal. Cette interview où vous dites Robert Downey Jr. a changé ma vie. Alors tranquille, ça cite Robert Downey Jr. au calme. Ouais, y a pas de. Bon, je me suis dit, c'est totalement. Je sens que c'est ma dernière chronique. Je me suis dit, c'est totalement mérité de jouer à ses côtés. Mais c'est vrai que j'attendais. Je suis honnête, pardon. Marine, et j'ai beaucoup de respect pour vous, mais beaucoup plus une couverture de vous sur Téléstar avec vous en disant ma nouvelle vie aux côtés de Laurent Romeshko. Ce n'est pas méchant, je sens qu'il y a méprise, c'est juste qu'il y a très peu d'acteurs français qui citent quand même Robert Downey Jr. Sinon, humblement, Marine, moi je m'inscris dans vos pas. Sachez que la semaine dernière, j'ai fait mes premiers pas dans l'art du crime.
Oula.
Oui, c'est super. Alors, cependant, il faut que l'enthousiasme des séries criminelles chez les Français cesse. Ça devient quand même un peu morbide, cette histoire. Aujourd'hui, vous allumez la télé, il n'y a que des séries policières.
ouais. Meurtre à Nîmes, meurtre à Collioure. Alors, je pense qu'on n'aura jamais meurtre à Bastia. Pour le coup, pour y être né, avoir
c'est un
grandi.
Doc.
Oui, c'est un doc. C'est que si la vanne est plus drôle que ce qui va venir, oh, voilà, il faut arrêter. Mais je vais quand même la refaire.
Vas-y, vas-y.
Sachez que mon mépris, désormais, il est sur vous, Naïf. Tout le monde saura à Bastia qui est l'assassin et personne ne dira rien. Il n'y aura donc aucun suspense. Pourquoi ça ne marche pas ? À cause de vous, Nagui. J'embrasse la Corse, car malgré tout, après cette blague, je vais perdre mon passeport. On rit, enfin, presque, hein, Lisa, j'allais dire Tanguy, Daniel, mais moi, il faut que je vous laisse, même vous, Marine, c'est dur, mais moi, je passe un casting cet après-midi pour Meurtre dans le Périgord. Merci à tous.
Merci, Julien Santini. Santé. Revenons à cette série HBO avec...
C'est vrai.
Ça, rien que ça, déjà. On
t'as l'impression que c'est
Game of Thrones qui commence.
Game of Thrones.
Ouais. Ouais. Ah, moi, j'avais Californication, tu vois.
Ah ouais, bah, tu vois. Le plus récent, ça
réforme. Okay. Voilà. Et 24.
C'est vrai. Une bande originale de dingue. Il y a, par exemple, ce titre ici qui vient. Avec ses grands paysages façon Paris, Texas, ou... Ah, comment s'appelle ce film avec... Thelma et Louise.
Non,
mais le côté... exactement, Grand Canyon, cabriolet, voiture qui roule, voilà, histoire d'amour ou pas. Tout ça fait partie de cette série. On va en parler notamment du point de vue vietnamien par rapport à cette guerre avec Antoine Lê qui est historien, la guerre du Vietnam, un traumatisme qui est toujours présent. Et pour preuve je pense, qui va de pair avec le succès et du livre de Viet Thanh Nguyen, comme avec The Sympathizer, c'est-à-dire une nécessité d'en faire, en tout cas, un devoir de mémoire, mais aussi d'en faire un spectacle, une vision totalement différente. C'est une réussite qu'on soit, parce que nous, on n'est pas concernés directement, pas autant que les Américains, évidemment, ou les Coréens, ou les Vietnamiens sur cette guerre du Vietnam, mais c'est une réussite de cinéma, de série, de suspense, d'effets spéciaux, un peu de fantastique aussi de temps en temps. Il n'y a pas que des fantômes normalement constitués, il y a aussi quelques scènes qui... Bon, on se dit que là, il y a des visages qui ont subi, on va dire, quelques violences. Mmh. Voilà, il y a des scènes de torture aussi, pour ne pas oublier la vérité et l'horreur de la guerre. On en parle tout à l'heure. D'abord, retour à la musique, celle de Marine Delterme. Vous écoutiez en 88 des Dire Straits. Yes. Qu'elle évoque cette musique de Dire Straits pour vous ? Vous l'entendez ? Voilà. Vous vous retrouvez où ? Vous êtes replongé dans quel décor ?
Replongé dans le décor du bac, lycée Chaptal. Quand je passais mon bac, j'écoutais beaucoup Dire Straits.
Du côté des Batignolles, là, c'est ça ?
Ouais, boulevard des Batignolles, j'habitais là-bas. Et voilà, donc toute la jeunesse, tous les débuts de la vie, avant de pouvoir partir, s'envoler et quitter la France.
Parce que vous vous inscrivez à la fac de droit d'Assas, et en fait vous êtes remarqué très vite par un agent japonais, je crois.
Je suis remarquée très vite. Non, alors la vraie histoire, c'est que moi, j'habite à côté, il y a une agence, Karine Model, qui est juste à côté de chez moi. Je rêve de mode depuis que je suis adolescente. Et donc, je vais faire des petits photomatons place des Ternes, et puis j'arrive avec mes petites photos, et puis ils me disent, bon, on va faire un test, puis vous êtes très bien, puis on vous prend. Et puis en fait, voilà, j'ai un petit souci avec Jean-Luc Brunel, qui depuis s'est pendu dans sa cellule, puisqu'il a été attaqué dans l'histoire Epstein.
Mais ce souci était un souci d'agression, justement ?
Non, oui, enfin, en tout cas, voilà, j'étais à une soirée, on m'a dit d'aller à une soirée chez lui, puis il y avait pas beaucoup de monde, et il m'a dit de me mettre en maillot de bain et de faire des photos. J'ai dit non, je le sentais pas du tout, donc je suis repartie. Donc il n'y a rien eu vraiment, mais je me suis dit, c'est bizarre. Quoi,
il voulait vous prostituer pour des clients?
Non, pas du tout, c'était juste faire des photos, peut-être des photos en maillot de bain chez lui assez tard.
Dans un premier temps, ouais, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc je suis rentrée, et puis j'ai appelé lundi en disant je ne veux plus, c'est pas grave, je retourne à Assas, tout va bien. Si c'est ça, ça me plaît pas. Voilà, bah, moi, et puis 6 mois après, je faisais du stop et un japonais m'a dit mais pourquoi tu fais pas mannequin ? Je dis, non, c'est pas, ça me plaît pas. Il m'a dit non, je vais te mettre chez l'agence. Oui, c'est deux femmes, c'est des mamans, c'est tout va bien, ça va bien, elles sont bien, etc. Et tu vas être protégée. Et donc voilà. Et après, donc je suis repartie vers le mannequinat en deuxième phase.
C'est ça. Voilà. Et vous dites que ce qui vous plaisait là-dedans, c'était les voyages et aussi l'opiniâtreté que ça a développé chez vous. Ça veut dire quoi ça ?
Bah L'opiniâtreté, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a ouvert une fenêtre sur le monde, parce que moi, mes parents ne voyageaient pas du tout. Mmh. Donc, moi, mon vrai, au départ, c'était aussi pour pouvoir voir le monde, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de vivre à Tokyo, à New York, d'aller partout. À un moment, j'allais tous les jours dans plein de villes. Je partais le matin, je revenais le soir. Ouais. D'Europe et de travailler avec plein de gens différents. Ouais, c'est génial.
Quel nom ? Peter Lindbergh, Dominique Iserman, Richard Avedon. Enfin, c'est
ouais,
les références
des
meilleurs photographes du monde.
Ouais, j'ai de la chance, vraiment. Ouais.
Être devant un objectif d'appareil photo ou celui d'une caméra, c'est totalement deux métiers totalement différents, ou c'est quand même deux objectifs, l'un filme, l'autre prend des photos, mais est-ce que le rapport est le même à l'objectif ?
Non, c'est complètement opposé. C'est pour ça
opposé,
depuis,
carrément.
Opposé. C'est pour ça que depuis, quand je voulais être, quand j'étais mannequin et je voulais être comédienne, c'était compliqué parce qu'on vous demande deux choses très opposées. Et c'est Valéria Bruni qui m'a emmenée comme ça, qui m'a dit, tu veux être comédienne, allez, vas-y, je t'emmène dans les cours, il va falloir casser. Parce qu'une mannequin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose pour un photographe. Quand c'est un grand photographe, c'est plus poétique, c'est plus intéressant, mais on essaie d'être belle, on essaie d'être parfaite, on essaie de donner une image très contrôlée. Et une actrice, elle ne fait que lâcher prise. Donc voilà, c'est tout ce travail de casser un peu cette construction narcissique pour arriver vers soi-même. Hein, c'est très opposé.
Un objectif qu'on regarde et l'autre que l'on...
On ne regarde jamais, très rarement.
Et l'autre qui nous observe. Ouais.
Voilà, c'est comment on grandit avec la beauté? Comment on évolue dans le temps avec la beauté?
Tu le sais bien.
Non, ouais, si on a le temps, je peux vous expliquer.
Moi, j'ai pas été mannequin. Enfin, voilà, c'est pas non plus mon... Parce que c'est ça, quand on a été... vous le dites, devant l'objectif d'un photographe, que vous devez être belle, tout maîtriser, c'est aussi un...
C'est un carcan.
Ouais.
On peut toujours être parfaite, être désirable, être...
Ah bah, pas droit au moindre petit bouton, ni le petit jetard.
Le jetard, à la limite, c'est passager, mais l'âge, c'est quelque chose qui s'installe, et à un moment, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre.
Ah, l'âge. Ah, alors là, vous avez très... Ah oui, on va vite là. Waouh. Alors,
oui, en fait, l'imperfection, je pense que ça se
maquille.
Ça se cache.
Ça se cache. Un petit peu de fond de teint.
Ben oui, voilà, on peut bricoler, on bricole. Passe.
Hop, hop, hop.
Papier de verre.
Bah, là, justement, le fait d'aller vers d'être comédienne, quand même, ça casse un peu cette obsession de la perfection. Mais en même temps, quand on est mannequin, ce qui est difficile, c'est un métier très dur. On est confronté à tellement de jolies filles face à soi, c'est-à-dire qu'on est entouré de filles plus belles que soi. Donc, ça apporte un peu d'humilité, beaucoup même. Mais voilà, après, l'âge, c'est difficile pour tout le monde, de toute façon. C'est un challenge. Il faut être courageux.
En 2002, vous écoutiez absolument, Marine Determe, écoutez David Bowie. Lui aussi, il travaille d'image incroyable. Hein,
Bowie.
Un artiste, bah,
ah, mais tellement de facettes. Ouais. Et puis j'adore, ça, c'est Cat. Ouais, c'était dans la bande.
Ouais.
Ouais, un film merveilleux, artiste, polymorphe, poétique, incroyable, quoi. Merveilleux.
Et 2002, c'est Alice Nevers, la juge est une femme.
Ah, c'est vous.
C'est vous, ce sont les débuts. Comment ce rôle vous arrive?
Enfin, les débuts, j'ai quand même fait beaucoup de longs métrages.
Non, mais le début d'Alice.
Ah, de la série d'Alice.
Ah oui, pas vos débuts d'actrice.
Bah, ce rôle, on m'a proposé de faire un casting, voilà, pour remplacer quelqu'un. Et au début, je pensais faire comme ça une ou deux saisons, tranquillement. Et puis finalement, bah, ça a duré quasi 18 ans.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage d'Alice Nevers?
Bah, j'avais fait un peu de droit à Stas, donc ça me faisait marrer de me retrouver dans cette position un peu, voilà. D'ailleurs, c'est drôle, cette série, elle a toujours été quand j'ai accouché de mon deuxième fils, il voulait que je retourne au travail très vite, donc avec l'idée d'être enceinte. Donc j'étais enceinte pour de vrai. Puis j'ai enchaîné avec Alice Nevers avec un faux ventre pendant un an, donc c'est très drôle. Il y a toujours une sorte de comme
ça. Elle collait beaucoup à votre vie. Et d'avoir joué au cinéma avec des Gérard Houry et autres, de passer par une série aussi longtemps, est-ce qu'on se pose la question du choix de carrière en disant, est-ce que je me crame pas avec le cinéma en étant héroïne de série télé avec des dizaines de millions de spectateurs?
C'est sûr, je suis tombée dans une mauvaise période parce qu'aujourd'hui ça a bougé quand même. Ouais. Aujourd'hui on peut faire même une série
au
sur France Télé, TF1, on peut tout bouger. À l'époque on était quelque part. Et c'est vrai que ça a fermé les portes du cinéma. J'ai fait 2-3 longs métrages pendant ces 18 ans, mais pas autant. Mais là, c'est vrai que c'est rigolo d'aller à l'autre bout du monde et puis de rebattre les cartes et puis de se réinventer et puis de sortir des étiquettes. Je déteste les étiquettes. Je trouve qu'il y a de pire et de plus réducteur. Voilà. L'inverse de la liberté. Je déteste.
On est au pays du fromage, on aime bien les étiquettes pour bien marquer d'où ça vient, comment ça s'appelle et comment c'est fait. En 2016, vous écoutiez Harry Styles.
We gotta get away from here.
bête de scène. Je sais pas si vous avez déjà vu Harry Styles sur scène,
non.
Mais
ah ouais,
ah, c'est un vrai show. Ah. C'est un vrai showman. C'est pas l'américaine de tout est lyophilisé, préparé, cadré. Il est très dans l'impro. Il est plus anglais, j'allais dire.
Mais
dans
il n'est pas anglais.
Il est anglais. Ah pardon, je croyais que tu étais un saint.
Pardon. Hein,
non, non, bien.
Il est anglais, c'est.
Ah bah il est très anglais sur scène.
C'est fou.
Il mériterait. Hein.
Non, mais c'est un tel succès mondial. J'étais
oui, oui, incroyable. Qu'il était, ouais. Mais plus aux États-Unis qu'ici, je crois. Oui, là-bas, oui. C'est une superstar. T'allumes la radio, t'as ça tout le temps.
Eh ouais, One Direction. Ouais, t'as raison.
Voilà.
Que se passe-t-il en 2016 pour Marine Delterme?
Eh bien, il y a le mec de la tombe d'à côté en 2016. Oui. c'est une pièce
changement
de théâtre.
D'ambiance.
Oui, c'est ça. C'est une pièce de théâtre que.
C'est, non, c'est un best-seller. Hein.
C'est un best-seller. Qui est adapté.
Ouais, qu'on a adapté avec mon mari et David Wayne Kinos pour.
Florian Zeller, je redis le nom pour que Julien
pour l'énerver soit un peu, énervé quoi, un peu. Ouais. Non, non, et donc on a fait ça. Ouais, c'est mon paysan, c'est génial, c'est, histoire, c'est mignon. C'est une femme qui est veuve, qui a perdu son mari assez jeune et qui va parler à la tombe de son mari tous les jours. Et à côté, il y a un paysan qui va sur la tombe de sa mère et ça la dérange. Donc c'est assez drôle, le début est très drôle. Ils s'engueulent sur à quelle heure on va voir la tombe de l'un et l'autre parce qu'on veut son intimité.
On va reparler de The Sympathizer, cette série donc sur HBO, passe Warner.
Bientôt HBO vraiment pour de vrai, dans pas longtemps, hein, en France. Enfin.
Mais je crois qu'en passant par Amazon Prime.
Là, c'est en ce moment, oui, c'est ça.
Warner,
Amazon Prime, on n'achète pas ce.
On s'en sort plus hein, avec toutes ces plateformes.
Très très doué.
Mais il faut taper, tu tapes sur Internet où trouver Sympathizer et.
Où trouver Marine.
Voilà, c'est ça. Chercher Marine.
Delterme.
Après, où est. Oui, c'est ça, parce que sinon, tu auras d'autres.
Pas te donner la bonne direction.
Antoine Lay nous a rejoint. Bonjour monsieur, merci d'être à ce micro. Vous êtes doctorant au Centre d'Asie du Sud-Est. Vous allez soutenir une thèse, c'est ça,
oui, c'est ça.
Sur la guerre du Vietnam dans un mois. Vous avez pu travailler dans les archives vietnamiennes.
Déjà, c'est sympa qu'il vienne parce que normalement, il est en train de bosser dur. Et là,
c'est fini. Là, j'ai déposé, j'attends la soutenance. Ouais.
Ça très bien. J'ai l'impression qu'il ne fout pas grand-chose.
Avis au jury.
La guerre du Vietnam, dans le début de la série d'ailleurs, il est dit que les Américains appellent ça la guerre du Vietnam et les Vietnamiens appellent ça la guerre américaine.
Alors, la formulation exacte en vietnamien, c'est la résistance nationale, enfin la résistance pour le salut national contre les envahisseurs américains. Mmh. Si on lit les manuels de scolaires, par exemple, au Vietnam, c'est cette expression-là.
Parce qu'il y avait un autre envahisseur qui était les Français.
Les Français, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Vietnamiens, cette guerre-là, elle n'est que la deuxième dans une phase qui est beaucoup plus longue, qui commence en 45 en fait, avec ce que les Vietnamiens appellent la Révolution d'août. Donc il y a le moment où le président Ho Chi Minh déclare l'indépendance de la République démocratique du Vietnam, et elle se finit pour eux en 75, le 30 avril, donc très peu, enfin voilà, on va bientôt fêter le 50e anniversaire d'ailleurs, et avec la prise de Saigon par l'armée majoritairement composée de militaires venus du Nord-Vietnam.
Voilà. Le Nord-Vietnam considéré comme un pays communiste au sens étymologique du terme, au sens soviétique du terme, ou c'est une autre forme de communisme, une autre forme de politique?
Alors ça, c'est une grande question pour beaucoup d'historiens. Moi, de ce que j'ai pu voir, en tout cas dans les archives, c'est que on voit surtout quand même un discours très axé sur l'angle de la libération nationale, sur l'angle de la réunification du pays. Peut-être juste pour aller très rapidement, le pays a été divisé en 1954 entre un nord qui a été donné à la République démocratique du Vietnam, donc un régime plutôt pro-communiste, et un sud qui était la République du Vietnam, qui était lui plutôt aligné sur les intérêts américains. Et en fait, toute la guerre va commencer d'abord par une insurrection de libération nationale dans le sud, qui va être soutenue par le nord, et qui petit à petit, ça dure 20 ans quand même, hein. On oublie que cette guerre a été si longue, mais en fait ça dure vraiment 20 ans. Donc
ça commence par le sud, ou du moins insurrection des Vietnamiens du sud,
oui,
qui veulent réunifier finalement tout le pays.
C'est ça. En fait,
contre les intérêts américains.
C'est ça. Et le si on peut dire, c'est aussi que le...
Parce que, pardon,
le régime.
Les Américains se comportaient comme des colons et traitaient les Vietnamiens comme des esclaves.
Je pense que c'est très compliqué. Hein. Enfin, comme dans toutes ces situations-là, on ne peut pas être univoque sur la présence américaine. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré aussi les différences qu'il y a. On n'a pas le même rapport au pays quand on est un soldat qui va se battre dans la jungle que quand on est un officier, par exemple, qui va rester sur sa base et qui va avoir très peu de contact avec la population locale. Dans tous les cas, la présence américaine, elle est graduelle. de 54 jusqu'à 65, c'est majoritairement des conseillers militaires. Donc, c'est-à-dire que ce sont des forces spéciales, des officiers souvent, qui sont envoyés pour former les unités de l'armée de la République du Vietnam, donc cette armée anticommuniste, qui mène une guerre contre-insurrectionnelle dans le Sud pour écraser cette insurrection dont je vous parlais. Et c'est qu'en 65 qu'on a vraiment des troupes, officiellement, des troupes de combat américaines qui débarquent et qui vont atteindre plus de 500 000 hommes en 1969.
Avec énormément de morts de part et d'autre.
Alors, c'est ça qui est assez difficile à établir, c'est que sur les estimations de la guerre totale, parce que c'est une guerre qui s'est aussi étendue au Cambodge et au Laos, qu'il faut pas oublier, on est entre 1,5 million et 4 millions de morts, si on compte tout large, c'est-à-dire les civils, les militaires, et puis aussi les 56 000 morts américains, je crois, plus les dizaines de milliers de Coréens.
Ouais, donc un véritable traumatisme, quel que soit la facette, quel que soit le côté où on se place.
Oui,
c'est
bien
forcément
sûr.
Traumatisant pour tous. Et puis c'est une guerre aussi où, comme souvent dans toutes les guerres, mais là on a la torture, on a presque des armes chimiques qui sont...
Complètement des armes chimiques. Enfin, il y a l'agent Orange qui a encore fait des ravages encore aujourd'hui. On a encore des centres, quand on va au Vietnam, il y a des endroits où on voit encore les malades de l'agent Orange et c'est des séquelles qui... Enfin, c'est basé sur la dioxine, donc ça se dégrade très peu. Et encore pour des générations, ça va encore avoir des effets dans le pays.
Le pays... Au Vietnam, est encore marqué, même 50 ans après, évidemment, mais c'est une cicatrice qui ne part pas.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à remarquer aussi, c'est qu'on est quand même dans un pays très jeune. On est un pays qui compte presque 100 millions d'habitants aujourd'hui, dont plus de 50% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est une grande partie des Vietnamiens n'ont pas connu cette guerre-là. Par contre, c'est le récit fondateur du régime, donc elle est omniprésente. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une date à commémorer. Là, par exemple, le 30 avril est un jour férié. C'est un jour où on va avoir toute la musique communiste qui va revenir. On va avoir des célébrations, notamment dans le Nord.
Les chants que l'on retrouve d'ailleurs dans la série Sympathizer.
Voilà, on a presque une religion civique, on pourrait dire, de l'État qui entretient cette mémoire-là, puisque c'est comme ça que le régime se justifie. Après, les Vietnamiens en eux-mêmes, alors bien sûr, avec très large de dire ça, mais souvent les gens de ma génération plutôt on en ont souvent marre en fait d'entendre ça. On est presque, j'aurais envie de faire le parallèle avec les travaux qui ont été faits sur la France, sur le passage de la mémoire de l'occupation, en disant il faut une génération pour la vivre, une génération pour l'oublier, une génération pour la redécouvrir et après la sacraliser. Et nous on est entre la génération qui oublie et la génération qui redécouvre en ce moment au Vietnam, je pense.
En tout cas, totalement, il la maîtrise, sa thèse.
Il la maîtrise. Nous, on vous le donne.
Oui, on vous l'accorde.
Franchement, vous êtes
très franchement. Et tout ça, sans aucune note, aucun papier. Ouais. La classe. Merci Antoine Lé. Dans le spectacle, on dit merde pour un spectacle quand il se lance. Je ne sais pas si pour une thèse,
ça marchera aussi.
Très bien.
Merci beaucoup.
Bonne journée, Antoine. Et voici la vision de Daniel Morin.
Ah, cette vision.
Quelle vision, Daniel?
Oh oui, je l'ai eu, mon Agui, claro que si, mon Kiki. Cette vision, elle m'est venue, mais comme un choc.
Ah bon?
J'étais en train de faire du shopping avec mon amoureux. On traînait assez devant les vitrines et pour être honnête, rien ne retenait l'attention de mes pupilles. Tout ce que je voyais, franchement, c'était de la merde. Et mon Tanguy qui s'emballait. Oh, regarde ce petit jean, il est hyper sympa. Je suis sûr, ça me fera un beau cul. Oh, et cette petite chemise. Je te parie que les manches courtes, ça revient à la mode cet été. Oh, mais regarde-moi cette petite perruque, ça tirait vachement bien. Je suis sûr, si on fait des couettes, tu ressembles à Sheila. J'en pouvais plus. Je m'emmerdais, mais tellement. Et puis on est rentré. Tanguy s'est enfermé dans la chambre pour essayer tout ce qu'il venait d'acheter. Pendant ce temps-là, dans le salon, j'ai décidé de visionner la série de Sympathizer, série pour laquelle nous recevons notre invité. Espionnage, contre-espionnage, agent double, CIA, flingue, sexe, alcool, meurtre.
Waouh ! J'adore.
Nom de Dieu de bordel, c'est ça la vraie vie.
Ouais.
Quand même autre chose que d'aller acheter une culotte chez Zara ou à Marcel chez H&M. Là voilà ma vision, les amis, la voilà. Pour un quotidien qui échappe au train-train, on se lance dans la vie d'espion. On s'invente un commanditaire qui nous confie une mission et hop, on y va.
Agent Dany ?
Oui ?
Le président Nagui a une mission pour vous.
Ok, j'écoute.
Un homme particulièrement fourbe essaye depuis longtemps de piquer des parts de marché au président Nagui sur France 2. Cet homme, c'est Cyril Ferraud.
Cyril Ferraud ? Le petit jeune avec des grandes dents ?
Affirmatif. Eh bien justement, ces grandes dents, vous devez lui péter hors du président.
Oh, mais il est super sympa, Cyril, ma mère l'adore.
Pétez aussi les dents de votre mère.
Ce serait top.
Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez ?
Je suis là pour t'éliminer, Cyril.
Mais j'ai rien fait !
Tu crois qu'on n'a pas vu clair dans ton jeu ?
On sait que tu veux piquer les émissions de Nagui. Mais pas du tout. Si c'est pour tout le monde de prendre sa place, il l'animait plus depuis longtemps.
Grâce à un indice, on a trouvé des plans du studio de Taratata dans ton bureau.
Ok, c'est bon, j'avoue. Je voulais prendre sa place, mais pitié, laissez-moi une chance.
Négatif, Cyril. T'as déconné? Tu vas payer.
Je peux savoir qui m'a trahi?
C'est Drucker.
Mais pourquoi?
Parce que lui aussi, il va reprendre Taratata.
Ce serait génial.
Bon. Alors voilà, Nagui. C'est ma vision pour une vie oui, beaucoup plus palpitante.
Mais tellement, tellement
alors bien sûr,
mais,
Nagui.
Mais ça,
je peux me tromper.
Non, ça m'étonne.
Mais ça m'étonne.
Je veux parler de moi parce que c'est un super sujet, mais aussi de tous ces gens tout le week-end qui m'ont ordonné de soutenir tel ou tel et qui m'ont dit ce que je devais dire de ma fuck.
Nous parlons avec Marine Delterme de l'excellente série. On l'a pas assez dit à quel point elle était géniale, cette série, à quel point vous êtes formidable dedans. Série réalisée, menée par Park Chan-wook. Elle s'appelle The Sympathizer sur HBO. On en parle après les infos. Monsieur Tanguy Passion, Monsieur Daniel Morin, l'excellente Marine Delterme. Pour cette série de Sympathizer, avec cette intrigue autour de l'espionnage, de la guerre du Vietnam et surtout ce que l'on ressent en tout cas au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, même s'il y avait une véritable intrigue, on est dans un véritable thriller, et y compris psychologiquement, de voir comment l'intégration ne se fait pas aux États-Unis, comme le racisme quotidien de cette secrétaire haut placée qui continue d'être surnommée Miss Butterfly et qui à un moment craque en disant je n'ai rien dit sur la référence Madame Butterfly et pourtant j'en ai marre d'avoir ce surnom qui est soi-disant souriant, sympathique, léger, mais qui ne fait que renvoyer aux différentes personnes dans l'intrigue de la série leurs origines, leur couleur de peau, la manière dont ils se comportent ou on imagine qu'ils pourraient se comporter. Enfin, c'est fou de voir, et ça remet un tout petit peu les choses à leur place, cette série.
Oui.
Mais pourtant, est-ce qu'on vous a demandé d'être la Frenchie de service, par contre?
Non, on ne m'a rien demandé du tout, en fait.
Non, mais est-ce qu'on vous a demandé d'exagérer votre accent français quand vous parliez? Est-ce qu'on vous a demandé d'être...
Non. En fait, c'est drôle parce que le costumier, il avait une référence qui était la costumière de Kubrick, qui est une grande costumière de cinéma, qui était très chic.
Avec la cravate.
Plus une référence de costume, quoi, quelque chose de très français, très chic. Après, non, moi vraiment, j'ai fait mon... Comme je vous dis, on n'avait rien préparé, on ne s'est pas parlé. Je me suis retrouvée avec Robert Downey Jr. le premier jour, assis comme ça, avec plein de gens autour. C'est le jour où on regardait des rushs. Et on s'est parlé tout de suite, en fait. On a tout de suite connecté. Il m'a dit, t'aimes bien improviser. J'ai dit, écoute, oui. Je vais essayer de te suivre, parce que ça va vite.
Il parle beaucoup en anglais. Il parle beaucoup français, d'ailleurs, dans la série. Il a quelques phrases en français.
Oui, mais il parle pas du tout.
Vous l'avez coaché ou pas?
Non, pas du tout. Il disait des trucs. Oui, mon ami.
Mon ami.
C'est pas ça.
Oui.
C'est pas ça. Quand tu parles pas à ton amoureux, c'est comme ça. Mais il est très drôle.
Oui, mon ami. Non,
oui, non. Non, il parle pas français, non.
Qu'est-ce que vous diriez, vous, de la série, si vous aviez à encourager une copine, un pote à regarder en disant, regarde parce que...
Je suis dedans.
Déjà, c'est vrai.
C'est un bon argument.
Parce que ça fait partie de ce qui se passe en ce moment avec Scorsese aussi, qui fait un film sur les Indiens, du côté quand même des Indiens. On revisite l'histoire, l'omniprésence américaine. C'est vrai que vous disiez dans la fiction, les Américains ont beaucoup parlé du Vietnam de leur point de vue.
Et se sont appropriés l'histoire.
C'est ça, la guerre de la mémoire.
C'était eux les victimes dans leur manière de raconter.
Oui, c'est ça. On voit toujours les Indiens comme des gens qui torturent. Il y a une scène au début de la série qui est connue avec cette vieille dame qui a la main dans un panier. Alors, c'est vrai que c'était des human bombs, quoi. Ils pouvaient se faire sauter. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment, même si une vieille dame comme ça est dangereuse, parce qu'elle peut les tuer, quoi. Donc voilà, on a toujours cette vision.
Et reconstituée dans le film qui est dans le film, dans des Hamlet.
Exactement.
C'est à ce moment-là, d'ailleurs, où elle, quand elle parle, le consultant vietnamien ne comprend absolument rien parce qu'elle est chinoise et que justement, chinois, coréen, vietnamien, allez, c'est bon, on va faire le casting.
Et il dit d'ailleurs, vous pouvez parler vietnamien, il dit, je sais pas, vous parlez danois, vous?
Non. C'est ça, parce qu'il était blond, celui qui dit, vous pourriez parler vietnamien, est-ce que vous parlez danois? Non,
mais moi, j'étais élevée.
d'humour aussi.
Bien sûr, il y a beaucoup, c'est une satire. J'ai été élevée, moi, avec un film que j'adore, qui est Voyage au bout de l'enfer, de Cimino.
Référence.
Que j'ai vu tellement de fois. Bah, et donc, c'est vrai qu'on était, je me rends compte, j'étais complètement du point de vue de ces Russes, d'ailleurs, qui c'est la communauté russe, hein, mais qui partent au Vietnam avec cette scène tellement connue de De Niro qui revient de la guerre et Meryl Streep qui l'attend et il ne peut plus vivre, parce que c'est des, évidemment, ils étaient aussi traumatisés, les Américains. Mais voilà, là, on a l'autre côté. C'est important, bien sûr.
Ça s'appelle The Sympathizer, c'est sur HBO, à voir absolument tellement c'est bon. Voici Tanguy Pastureau.
Bonjour et bienvenue dans la sixième chronique de Julien Santini. Pardon, j'adore cette intro, alors je la vole, c'est un truc qui se fait couramment dans l'humour.
Faut que tu chantes après.
Bon, je suis énervé, le week-end avait pourtant bien commencé, sous les meilleurs auspices, comme disent les vieux qui à l'EHPAD n'ont jamais trouvé leur chambre et se retrouvent à dormir à la cave. J'ai joué à Genève, ville apaisante s'il en est, rue calme, fondue chaude, les valeurs sont respectées, aussi bien le dollar que le rial saoudien. Ensuite, je suis parti à Bruxelles, au Kings of Comedy, le comedy club de Fanny Ruet et d'Alex Vizorek. C'est Vizorek qui m'a demandé de jouer là-bas et moi, je refuse rien aux amis de Nagui. Donc là-bas, le concept, les gens boivent pendant le spectacle. Si bien qu'arrivé à la moitié, même si toi, tu te mets à pleurer sur scène en pensant au cachet qu'ils t'ont donné, le public grille. Puis je rentre à l'hôtel et là, je mets les infos. Ça parle de coucherie entre cousins. Je réalise que je suis sur une chaîne d'infos belge, donc je zappe sur BFM et j'apprends qu'il y a eu en Bretagne 49 intoxications au datura. Cette plante hallucinogène, parce qu'on en a retrouvé dans la farine bio. Or, j'ai abordé cette info la semaine dernière en donnant même le numéro du lot en question. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 49 pleu-pleu en Bretagne qui n'écoutent pas ma chronique, comme s'il y avait autre chose à foutre à midi 10 à Banalec ou Rospordin. À midi 10, tout est fermé là-bas. À part les crêperies qui ferment à 14h quand les autres rouvrent. Si bien qu'en Bretagne, un Chinois habitué à taffer 53 heures par semaine, peut tenir à la fois un bar PMU, une crêperie, le magasin Jules, et le soir vendre du shit derrière l'église. Voilà. Si vous aviez écouté Pastu, bande d'idiots, vous n'auriez pas fait ce bad trip. J'en arrive donc à la conclusion que cette chronique ne sert à rien. Je vais déclencher mon CPF et faire un métier à la place. Parce qu'en plus, sur les réseaux, tout le week-end, j'ai commencé à recevoir plein de messages d'adieu d'auditeurs. D'adieu. Bye bye France Inter. Finito Inter. Boycott. Alors j'ai l'habitude, quand je vanne Mathilde Panot, ces fans me menacent parce qu'ils ont le même sens de l'humour qu'elle, aucune enclume. Et là, je lis un message qui cite Guillaume Meurice. Cet humoriste avec qui je partage plein de convictions, notamment la défense des animaux, mais aussi la défense des animaux et la défense des animaux. Je vais sur X, Twitter, là, je vois Guillaume Meurice cité partout, vous connaissez l'histoire. Bon. Et là, dans mes notifs, j'ai plein de personnes qui m'écrivent, bah alors, tu soutiens pas Meurice? Et ton soutien, il est où, connard? Soutiens-le, c'est un ordre, ça m'a gonflé, parce que je fais ce que je veux, en fait. Ok, donc je suis gonflé, mais pas dégonflé. Je suis en fin de carrière, j'en ai plus rien à battre. Donc voici le fond de ma pensée. Ce que je ne soutiens pas, c'est le fait de suspendre deux semaines quelqu'un avant un entretien, blabla, je sais pas quoi. On meurt sous les procédures dans ce pays, parlez-vous. La direction est Meurice, prenez un thérapeute de couple, un mec de l'ONU, Julien Courbet, réglez le problème. Quand Daniel Morin a été trop loin lors de cette chronique où il m'imaginait nu avec lui sur mon dos, j'aurais pu lui péter la gueule. Hein, là, je l'ai considérablement affaibli. Même Laurent Dutch, dans un octogone, peut le prendre. Mais non, non, on a discuté et on s'est compris. À cause de la direction de Radio France, tous les salariés d'Inter maintenant sont accusés de travailler pour une chaîne qui bafoue la liberté d'expression. Bravo, bravo, bien joué, hein, super sur le CV, enfin voilà, donc tout le monde va se barrer. À propos de liberté d'expression, on en parle beaucoup, à 100%, elle n'existe pas, petit point, voilà, en France c'est comme ça. Aux États-Unis ça existe, c'est le cas, vous pouvez dire je suis un nazi, ou j'ai envie de tuer des noirs, porter un t-shirt avec le visage de Charles Manson, l'assassin de Sharon Tate, comme l'a fait sur 20 ans cet abruti d'Axel Rose des Guns N' Roses, Charles Manson qui avait une croix gammée tatouée entre les yeux. Donc vous voulez ça sérieux que demain en studio, parce que j'ai bouffé du datura, je fasse un salut hitlérien affublé d'un t-shirt Francis Holmond amour, ok, bah pas moi. Autre chose, selon moi, les humoristes ont une responsabilité. Les gars, certains d'entre nous ont 900 000 followers, font des salles de 4000 places, 5 millions de vues YouTube. Les algorithmes nous ont donné plus de pouvoir d'influence que l'ensemble du gouvernement. C'est plus juste des vannes. Tout est démultiplié et le peuple est à cran. Vous savez ce qu'on dit dans Spider-Man? On dit, purée, j'aurais dû moins bouffer, j'arrive pas à fermer cette combi. Ok. Mais on dit aussi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Faites avec, vous n'êtes plus juste des clowns. Ça, c'était en 88, c'était la classe de Fabrice. Autre chose, j'ai vu défiler et défiler et défiler le hashtag PrépuceGate, mais vous pensez réellement que c'est le mot prépuce qui pose problème ou le mot nazi? J'ai fait 800 blagues sur les prépuces, j'ai dit que le rabbin, après la circoncision, les foutait dans le pot-au-feu quand il avait oublié d'acheter la viande chez Leader Cash. Belle vanne quand même. Bon, j'ai jamais eu un problème. Juste dire d'un juif, même du plus atroce d'entre eux, que c'est un nazi, ça peut choquer d'autres juifs et des non-juifs. Rapport à l'histoire, parce que le monde n'a pas commencé à la naissance de ton nombril. Les plaies de la Shoah sont encore béantes et celles de l'esclavage
images et celle du génocide arménien. Et le groupe Mano nous a fait beaucoup de mal également. Alors, on peut rire de tout. Moi, je suis pour cette blague, mais si on accepte que face à nos mots, parfois les autres pleurent et crient et soient blessés, c'est la vie, c'est pas juste l'extrême droite, pas gentil, les gens ont un cœur. L'ambiance à France Inter est donc plus lourde qu'un ciel d'orage sous dérèglement climatique. J'ai jamais eu autant envie de me barrer sur Nostalgie, vivre avec pour perspective les démons de minuit, loin de tout ça. Je soutiens tous ceux qui se font virer en un claquement de doigts, comme ça, sans dialogue. Je pense aussi à Jean-François Achille de France Info et à cette dame pipi de la gare Montparnasse licenciée pour avoir gardé 1 € de pourboire. 1 €. Je soutiens, mais j'oublie pas qu'au lendemain du 7 octobre, quand moi j'ai pris position, que j'ai reçu des centaines et des centaines de menaces de mort, que je l'ai dit à l'antenne avec les larmes aux yeux, j'ai pas eu un soutien dans cette putain de radio. Ici, dans cette équipe, oui, et Charline et Sophia, toujours citer ceux qui vous donnent de la force. Quant aux tweetos qui me donnent des ordres maintenant, ils n'ont pas fait à l'époque un hashtag, soutien à Pasturo, Loulou, chéri, c'était pas le bon combat, c'est ça? Allez vous faire, allez, bisous. Vous voyez, Genève, en fait, ça m'a pas calmé.
Bravo, tant pis.
Tout est dit et bien dit. Marine Delterme dans The Sympathizer avec cette série. Il y a eu une rencontre avec Robert Downey Jr., mais plus que ça encore. Il vous a fait rencontrer une personne.
Oui, il m'a fait rencontrer son agent. Ouais.
Donc, qui est maintenant le vôtre ?
Qui est maintenant le mien. Ouais. Un jour, je ne vais pas tourner. Ils m'ont fait venir, voilà, ce qui ne se fait pas en général. Ils m'ont demandé de venir pour être dans une scène en plus avec lui. Et donc, j'ai fait une vanne. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je dis que s'ils avaient eu un agent, ils m'auraient protégé de leurs caprices. Et il m'a dit, t'as pas d'agent. Je dis, bah non. Parce que les actrices françaises, c'est vraiment difficile d'avoir
un agent
à CIA ou WMI. C'est des gros agents.
C'est quoi WMI?
Bah, c'est les agences, c'est l'agence de Robert Downey Jr. Il y a deux grosses agences là-bas, c'est CIA et WMI.
Ok.
Voilà. Et donc il m'a dit, bah écoute, je vais te présenter mes agents parce que je te
kiffe
comme comédienne. Oh, et donc hop, donc d'abord on s'est entendu aussi avec ses agents, il les a pas forcés, donc je suis rentrée chez WMI. Là où j'ai un peu moins de chance, c'est que je suis arrivée chez eux et 2 jours après, c'était la grève là-bas, qui était une grève importante,
mais
qui a duré plus de 7 mois. Donc c'est un peu comme le Covid. Il y a eu un deuxième Covid en fait.
C'est parce que vous avez signé. C'est parce que vous avez signé qu'ils se sont mis.
Ils ont fait grève.
Ouais, je sais pas.
Vous prenez Marine Dédard, on fait grève.
On arrête, on arrête.
7 mois, bim.
Donc voilà, il y a eu 7 mois
fini,
qui étaient importants. Oui, mais ça a été.
Les choses reprennent leur.
Oui, mais difficilement là-bas, c'est difficile.
D'accord. En tout cas, c'est une série qui compte pour vous en ce moment et qui va peut-être compter dans votre deuxième vie américaine.
Ouais,
deuxième vie pour qu'il y en ait d'autres. Hein. Si on dit seconde, il y en a que deux.
Je peux essayer de faire une carrière en Corée.
Une troisième, une carrière. Exactement.
Pas.
C'est tout ce que je vous souhaite. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche une artiste qui est au cœur de l'actualité de ce 6 mai. Elle s'est lancée d'ailleurs dans le métier grâce à l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Et oui.
C'est pas.
C'est Éric Dupond-Moretti qui a fait en sorte qu'elle devienne une artiste.
Caroline Vigneault.
Absolument, et elle présente ce soir les Molières, la cérémonie des Molières France 2. Absolument, elle raconte ce week-end, je crois dans la Tribune dimanche, ou dans le Parisien, je ne sais plus, pardon, j'ai pas ma source, que lors d'une émission de radio, elle faisait déjà des petites chroniques en parallèle de son métier d'avocate. Éric Dupond-Moretti lui aurait dit à ce moment-là, il va falloir choisir entre rester avocate ou devenir saltimbanque. Et ça l'aurait aidé.
C'est mieux que de l'avoir plaidé un procès en disant, tu devrais faire du spectacle.
C'est haut, tu as raison. Elle a du coup pris ce virage-là et ce soir, elle est en charge de la cérémonie des Molières sur France 2. Je sais pas si c'est toujours un grand cadeau d'être à la tête d'une émission comme ça, c'est jamais simple. Ouais. Hein. C'est que ce soit pour les Césars, les Molières, des grands moments qui réunissent une audience de professionnels qui attendent.
Qui te jugent.
Oui, qui indirectement te jugent, bien sûr. Et puis bon, voilà, c'est quel genre d'ambiance dans des...
Envie de rire non plus.
Voilà, qui sont pas forcément les meilleurs clients pour les blagues. En tout cas, c'est le moment où on célèbre le théâtre ce soir. Qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de voir au théâtre, vous, récemment?
Moi, je suis là pas longtemps et j'ai rien vu, malheureusement.
Mais vous voyez, il y a
des bons spectacles. Bah oui, mais j'ai pas pu y aller. Parce que moi, je suis là 2 semaines et demie, donc j'ai eu beaucoup de. Mais j'aurais adoré voir plein. Il y a plein de choses. Je crois qu'il y a le Cercle des Poètes disparus, c'est
absolument.
Ça.
Absolument. Oui, au théâtre Antoine d'Olivier Soliveres, qui est en lice.
Qu'est-ce qui est nommé
Justement, il est en lice pour cette pièce-là. Il est aussi en lice pour le Pinocchio, qui est un spectacle pour enfants. Il y a Denali aussi. Il y a pas mal de pièces.
Ah, ça, je l'avais vu. Ça, c'est au théâtre Marigny, c'est au Petit Marigny.
Oui, absolument.
Ça, je l'avais vu.
Ah, ça, vous l'avez vu avant.
Oui, j'avais vu avant, à Noël.
Vous votez pour les Molières?
Moi, non.
Et oui, vous, non. J'en connais un autre qui vote.
Voilà.
Donc.
Pardon, comment se dit que vous ne votiez pas pour les Molières? Enfin, si c'est pas les acteurs, les actrices qui votent, c'est bizarre.
Il faut vous manifester. Il faut vous manifester, je pense.
Ah, il faut dire j'aimerais voter?
Ah bah je sais pas. Peut-être, je crois qu'il faut.
J'ai pas fait théâtre depuis longtemps.
Alors, oui.
Peut-être ça aussi.
C'est
ça.
Dit,
et ça, c'est une envie, un retour au théâtre.
Ah oui, oui, oui.
Bah, non,
oui.
Je vote pas non plus.
J'aimerais, bien sûr.
En France.
Quand je faisais ma. Bah oui, parce qu'avant, je tournais trop pour faire ça. Ouais. Mais là, maintenant, oui, avec plaisir.
Donc, il y a des projets, il y a un texte qui vous
non,
intéresse.
Non, ça, j'ai pas mis ça en route, mais j'ai déjà eu voilà, des demandes, propositions que je veux pas faire. Mais en tout cas, oui, ça.
Pardon, sans s'immiscer dans la vie privée, comment gérer la scolarité des enfants et votre présence entre les États-Unis et la France ?
Ah non, mais on revient tous en France.
Ah, vous ne restez
bientôt.
Plus aux États-Unis ?
Non.
Pardon, je croyais que vous restiez là-bas.
Non, non, on revient. Moi, je
d'accord, toute la famille redéménage. Pardon.
Moi, en tout cas, je reviens.
Vous, bah d'accord, ok. J'espère que tout le monde revient aussi.
Alors là, ouais. On voit la tête de Julien ouais, qui dit... Comment ça veut dire que Florian reste aux États-Unis.
Je ne cherche pas à être intrusif, mais je prends note.
Autre question, on va en Italie, où Barbie a été détrônée du box-office par un film qui aborde un thème de société.
Oui, les femmes battues.
Absolument, Lisa. C'est ce film, Il reste encore demain, je vous en avais parlé, de Paola Cortellesi, qui est un phénomène fou en Italie, aussi en Europe, les violences faites aux femmes. Un film en noir et blanc où on traite ce sujet-là très très fort, sur fond, pas complètement de comédie, mais bon, de film un peu via l'italienne. Et c'est un film qui rencontre une adhésion exceptionnelle, qui est sorti aussi en France, qui a rencontré un public assez vaste, assez large. Je profite de votre séjour, votre passage aux États-Unis pour voir comment les violences faites aux femmes sont abordées là-bas. On s'interroge toujours, nous, quotidiennement, sur les histoires qui envahissent la presse quotidienne, régionale, nationale, sur encore ce week-end à Saint-Jean-de-Luz. D'autres pays qui en font vraiment un credo dans les médias en disant, en égrenant le nombre de victimes depuis le début de l'année. Comment c'est traité aux États-Unis, les violences faites aux femmes ?
Alors ça, je ne pourrais pas vraiment vous répondre parce que je regarde les infos.
Faites un effort.
Je suis pas. Je sais que. Bah, je sais pas. Oui. Là, je passe parce que je regarde pas la. Enfin, je pourrais pas.
On en parle autant que. Enfin, j'ai l'impression qu'on commence à en parler davantage en France. Je dis pas qu'on en parle de façon folle, hein, mais ça commence à devenir un véritable sujet. On sait.
Ici, oui, bien sûr.
Ouais, ouais. Aux États-Unis, j'ai pas non plus.
Ouais, je pense pas. C'est un pays tellement grand. Il y a tellement d'États. Ouais. Il y a tellement de. Je sais pas.
Tu dis pas un sujet.
Je pense. J'ai pas de film en tête.
Non,
qui
non
parle
plus.
De ça, ouais. Ah si, il y a eu quelques films aussi américains quand même là-dessus. Toujours. Oui, c'est un des sujet quand même majeur du cinéma américain, la femme
violentée
ou pas violentée, il y a quand même beaucoup de sujets là-dessus. Ah ouais. Et les minorités et la femme aussi.
J'ai quand même j'ai pas en plus, tête. Plus sur les minorités.
Moi aussi que sur les
minorités,
femmes
oui.
Violentées. C'est marrant que ça soit un sujet. Et ça explique d'ailleurs le succès de
celui-là.
Il reste encore demain, ouais. Parce que tout d'un coup, c'est. Bah
surtout
c'est emparé
dans une société très machiste. Quoi.
Mmh. Oui.
Et on ne s'attend pas à ce qu'en Italie, il y ait un succès sur un film qui dénonce justement la force des hommes.
Et c'est l'actualité
la
qui explique ce succès, parce qu'il y a eu un féminicide très retentissant en Italie, qui a fait que tout d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience massive, parce qu'il y a à peu près, je crois, 120 féminicides par an en Italie. On est dans ces eaux-là hein, aussi en France, on n'est pas meilleur. Et ça a été vraiment une prise de conscience folle, parce que l'histoire a dû toucher davantage la population.
Il y en a plus en France, hein, je crois que c'est pratiquement tous les deux jours qu'une femme...
Tous les trois, deux jours et demi. Là, on est à 49 au fin avril, depuis le début de l'année, en France. Wow. Donc on est à peu près à 120 par an. J'aimerais que ça baisse, bien sûr. Oui. Mais voilà, ça explique cette prise de conscience-là.
Moi, je vois plus de ce que de passer dans le feed d'actu là-bas, c'est les problèmes liés à le droit à l'avortement. Ça, c'est un truc qui est très, très présent là-bas.
Ouais. Ouais, d'autant que des États se sont carrément mis contre
le
droit d'avortement.
Non, c'est pas inscrit, contrairement à nous.
Et nous, voilà.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut revenir.
Si vous revenez en France...
Pour avorter.
Oui, oui.
Est-ce que si vous revenez en France, est-ce que ça veut dire... C'est très risqué là de passer à un sujet.
Ah non,
c'est très bizarre.
En plus, elle a l'œil qui frise tout de suite. Alors forcément,
la France, le Roquefort et l'avortement.
Heureusement que c'est une émission enregistrée.
Oui, c'est vrai. On peut couper. Allez, descendez-nous.
Alors, cet avortement. Alice Nevers. Si vous revenez, est-ce que ça veut dire que vous reprenez Alice Nevers? Il y a des rumeurs qui courent comme quoi la série n'est pas forcément arrêtée.
C'est vrai qu'elle n'est pas morte.
Oui, mais...
Elle n'est pas morte non plus. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible.
Allez, là,
ouais, je ne sais pas. Je sais pas si c'est cette ambiance.
C'est l'un des
gros moments. Ouais.
C'est vrai qu'elle est... Entre femmes, on se comprend, on va dire.
Oui.
Non. Bah, écoutez, je ne sais pas. Il y a peut-être une...
voilà, on est en train de voir si peut-être, éventuellement, c'est toujours pareil, quelque chose de... Si jamais ça revenait... Et ce serait vraiment, comme c'est une série qui a duré 18 ans, donc on l'a déjà réadapté au bout de 10 ans, on a déjà complètement changé le format, etc. Donc si jamais on revenait, mais vraiment pas non plus en manière aussi, comment dire, autant d'épisodes, ce serait en renouvelant le genre. Ouais. Vraiment, moi, voilà, avec Jean-Michel Tinivelli, voilà, on pourrait le faire, mais en réinventant quelque chose. Donc
à propos de réinventer, des actrices américaines qui ont réinventé leur carrière, peut-être parce qu'elles n'avaient plus les rôles qu'on leur proposait en devenant elles-mêmes à l'initiative productrices de projets, je pense à Nicole Kidman, entre autres.
Elles sont quasiment toutes maintenant. Emma Stone aussi. Sur
très,
les
très grande productrice.
Oui, oui, elles viennent tous en télé aussi trouver des beaux rôles. Ouais. Ouais. Mais la télé, ça permet des rôles.
Jennifer Aniston avec The Morning Show, elle avec The Big Little Lies, c'est ça. Ouais.
On est reine un peu en télé, parce qu'en fait, la télé est sociétale. Enfin, traite vraiment des sujets de société, on est très réactif, donc on peut raconter l'histoire des femmes. Et moi, avec ma série, d'ailleurs, sur autant d'années, j'ai pu raconter un peu, quand je me rappelle des débuts, mais même par rapport à la fiction française, il fallait que je sois parfaite, jamais de mauvaise foi, une sorte d'héroïne positive. Et puis, petit à petit, j'ai grignoté, j'ai gagné d'avoir une vie privée, d'être plus ambivalente, de raconter mon parcours professionnel, comment une femme gère sa vie privée, sa carrière.
Ça, c'était votre combat personnel, ça ?
Ah oui, sinon je ne peux pas rester.
D'accord.
Ça a été vraiment un enjeu d'être une héroïne vivante, quoi, forte, et de ne plus être juste une sorte de femme parfaite, objet de désir.
Oui, avoir quelques aspérités aussi.
De prendre en main mon destin, avec mes ambivalences, avec la complexité de la vie. Quoi,
en force comme en faiblesse, avoir du bon comme du mauvais.
Voilà, et d'arriver, et en fait d'être assez aimée par les spectateurs et suivie pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans... dépasser la ligne rouge, parfois on se disait à l'écriture, parce que moi je travaille aussi sur mes arches de vie privée, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Et oui. Parce que les gens vous aiment et sont derrière vous. Et voilà. Donc ça, c'était une belle histoire.
À suivre donc peut-être Alice Nevers, à suivre sans doute Marine Desthermes au théâtre. Là, il faut retrouver la pièce. Mais en tout cas, sûrement Marine Desthermes dans cette série très, très, très musicale. Encore une fois. The Sympathizer sur HBO, le Pass Warner. Où il y a également... Il y a une pure BO.
C'est magnifique.
Ça, c'est Harold Melvin. Je crois que c'est la version originale. Puisqu'on est avec la musique des années 70. On est après.
75, ouais.
75, c'est ça. On
c'est
est
génial, d'ailleurs, les costumes sont extraordinaires.
Allez, Brothers. Il y a des scènes dévergondées hein, aussi. Hein. C'est amusé, Robert Downey Jr. Apparemment, il aime la chantilly.
Ouais.
Il s'est amusé. Il s'est amusé. Qui n'aime pas la chantilly ?
Il n'aime pas.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument déjà. Désolé pour tous les fans de tatouages qui ont trouvé que la suggestion de Tanguy, à savoir une croix gammée entre les deux yeux, style Charles Manson, bah, c'était pas con. Non. Laissez tomber, les gars. Non, j'ai plein d'amis. Non, rien. J'ai rien dit. Désolé pour tous nos auditeurs ponctuels qui ont été choqués par la désinvolture de Nagui qui est arrivé dans le studio vers 11h25, 11h26. Bon. C'est vrai que c'est pas très pro, mais il a une excuse, hein, d'après certains témoins. Il a été vu comme un fou dans Paris, un fusil à la main, à la recherche de Xi Jinping et Anne Hidalgo, qui, selon lui, paralysent la vie. Il est chaud, Nagui, il est chaud. Ah oui, faut pas l'emmerder.
Je suis bouillant.
Désolé, enfin, pour tous les Français qui rêvent d'aller travailler en Californie. Vous avez entendu notre invité. Maintenant, on n'a plus le droit d'insulter ou d'humilier ses collègues. Oh! Ça n'a plus aucun intérêt. Ah, c'est définitivement bien terminé.
On est bien américain. On est bien en France. On est bien. Merci Marine Desthermes et bravo.
Merci,
merci.
Bravo, merci.
Bravo.
Merci à vous.
The Sympathizer, une série à voir. Donc chaque semaine un nouvel épisode, il y en a 7 en tout. Et là on en est au 4e.
Le 4e ce soir, voilà. Il y en a 7 en tout. Mais après ça reste sur la plateforme et ça restera quand ce sera HBO.
Super. Ouais. Demain, chaque aponque seront nos invités. Sam et Fra viendront parler musique, mais pas uniquement. Ils ont plein de sujets à aborder. Tout de suite, les carnets de campagne. Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour les amis.
Coucou Dorothée.
Salut, comment ça va?
Où allez-vous? Ça roule.
Bah oui, ça va. Ça roule pas très bien.
Voilà. On bouge plus quoi, on reste là.
Bon, les carnets de campagne entament une semaine en Haute-Saône, en Franche-Comté, du côté de Vesoul donc.
Ah, ça roule mieux il paraît.
Territoire rural, mon cher Daniel. Et aujourd'hui, on parle d'un festival très important. Il y en a peu dans le coin en été, moins qu'ailleurs en tout cas. Mmh. Il s'appelle les Pluralies, de la musique, de l'humour, du théâtre et j'en passe.
Tout ce qu'il faut pour être heureux. Bonne émission.
Salut à demain.
Merci. Ciao.